Merci d'écouter RFI, midi et demi en temps universel. Il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. À l'île Maurice, le Premier ministre Pravind Jugnauth reconnaît sa défaite aux législatives. L'alliance du changement menée par l'ancien Premier ministre travailliste Navin Rangoulam devrait s'installer au pouvoir. Le coup d'envoi de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, plus de 100 chefs d'État et 40 000 participants sont attendus. Il s'agit notamment de définir un nouvel engagement pour aider les pays en développement à faire face à la crise climatique. Au Sénégal, la justice repousse les obsèques de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba. Il était décédé à Paris. Les circonstances de sa mort sont finalement jugées suspectes. Et puis en Afrique du Sud, Eskom, la compagnie publique d'électricité, menace de couper le courant à Johannesburg. Elle accuse la municipalité de ne pas payer ses dettes.
Comment en est-on arrivé là? Claude Bessac, directeur de la société d'analyse Eunomix, est l'invité d'Afrique Midi dans quelques minutes.
À l'île Maurice, Pravind Jugnauth admet sa défaite aux législatives. Abdoulaye Rali, on vous retrouve en direct de Port-Louis. Le Premier ministre sortant a reconnu publiquement vers 14h locale la victoire de l'opposition.
Oui, et les rues de Maurice vibrent déjà aux célébrations des partisans de Navin Rangoulam. Vous pouvez l'entendre un peu. Et Navin Rangoulam qui s'apprête à retrouver son fauteuil de Premier ministre pour la quatrième fois. Les résultats partiels de midi ont poussé Pravind Jugnauth à reconnaître sa défaite. À 14h, le Premier ministre sortant quittait sa circonscription. Il a déclaré « Nous allons vers une large défaite et acceptons la décision du peuple ». Le dépouillement qui se poursuit dans les 21 circonscriptions de Maurice confirme en effet une victoire écrasante de l'Alliance du changement. Les vice-premiers ministres eux-mêmes sont en difficulté dans leur bastion, annonçant l'une des plus lourdes défaites de l'histoire politique mauricienne. Cette déroute intervient paradoxalement après un succès diplomatique majeur, la reconnaissance par Londres de la souveraineté mauricienne chez les Chagos, mais les électeurs ont privilégié ici les enjeux quotidiens, pouvoir d'achat, lutte contre la drogue, respect des institutions, les controverses autour de la suspension des réseaux sociaux momentanément pendant la campagne et les écoutes téléphoniques illégales ont pesé lourd dans la balance. Les résultats définitifs de ces élections sont attendus ce soir.
Abdoulaye Rali, en direct de Port-Louis. C'est parti pour 2 semaines de négociations sur le climat. 198 États se réunissent à partir d'aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique. Plus de 100 chefs d'État et 40 000 participants sont attendus, alors que les températures mondiales battent cette année encore tous les records et que les catastrophes climatiques s'enchaînent. À cette COP29, les États membres de l'ONU Climat vont devoir décider d'un nouveau montant pour aider les pays en développement à faire face à la crise climatique. Jeanne Richard, c'est bien sûr un sujet primordial pour l'Afrique.
Oui, les pays développés, principaux responsables du réchauffement planétaire, se sont engagés à aider les pays pauvres, dont les pays africains, à faire face au changement climatique. Problème, leur promesse de réunir 100 milliards de dollars chaque année pour les pays en développement entre 2020 et 2025 n'a pas été tenue dans les temps, ce qui continue à crisper les relations Nord-Sud. Surtout qu'aujourd'hui, il faut négocier un nouveau montant d'aide. L'Afrique demande 1300 milliards de dollars chaque année. Autant dire que les pays pauvres espèrent beaucoup des pays riches qu'ils soient au rendez-vous pour payer cette dette climatique et rétablir la confiance Nord-Sud. Outre le montant colossal, ce qui compte pour les pays africains, c'est de faciliter l'accès à l'argent. Selon la Banque africaine de développement, le continent ne reçoit que 3% des flux mondiaux de financement en faveur du climat. Enfin, ils réclament que cet argent soit principalement versé sous forme de dons et pas de prêts qu'il faudra rembourser avec des intérêts, alors que beaucoup d'entre eux croulent déjà sous les dettes.
L'un des enjeux de cette COP est donc l'adaptation au changement climatique. Au Sénégal, on travaille notamment sur l'agroécologie, en clair une production agricole qui soit respectueuse des bonnes pratiques environnementales. C'est notamment le cheval de bataille de la DITAES, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, Gwendal Lavina.
Ces 80 membres sont des organisations de producteurs, des ONG ou encore des représentants de l'État sénégalais. Absam Bodj est coordinatrice du secrétariat de la DITAES et a affirme que la population ne les a pas attendus pour se saisir du sujet.
La compréhension que les producteurs en général ont de l'agroécologie, c'est que ce n'est pas finalement quelque chose de nouveau. C'est une forme de pratique qu'ils ont toujours connue, donc on assimile ça à des connaissances endogènes.
Des pratiques qui vont du développement d'une autosuffisance en semences à une meilleure gestion de l'eau. Mais un changement à grande échelle dans les exploitations familiales nécessite tout de même un accompagnement.
La plupart, c'est des producteurs de petites surfaces. Et donc, pour certains, d'être dans des alternatives, c'est prendre des risques. On parle de transition, mais comment est-ce qu'on assure à un producteur un mécanisme qui supporte ses potentielles pertes en début de transition ?
Cela passe par des consultations et de nombreux échanges avec les exploitants. Raphaël Belmain est agronome au CIRAD, l'un des partenaires de la DITAES.
On va d'abord diagnostiquer les problèmes agronomiques avec les populations. On va ensuite co-concevoir des innovations, de nouvelles manières de produire et les tester dans des petits réseaux expérimentaux. Et ça, ça nous permet de construire des connaissances et finalement d'initier des processus d'innovation et de diffusion des pratiques agroécologiques.
Dès les premiers mois de l'année prochaine, une nouvelle caravane partira à la rencontre des populations dans tout le pays pour continuer à recueillir leurs avis et leurs attentes. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
On reste au Sénégal où la justice fait reporter les funérailles de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba. Il était décédé à Paris. Mais aujourd'hui, les circonstances de sa mort sont déclarées suspectes. Léa Lisa Vesterov, vous êtes en direct de Dakar. Un rapport d'autopsie commandé par le parquet conclut à une mort non naturelle.
Oui, les résultats de l'autopsie ont révélé plusieurs éléments de nature à attester que la mort n'est pas naturelle. Voilà ce que dit, mot pour mot, le communiqué publié par le procureur de la République hier. L'inhumation qui devait avoir lieu dimanche dans le centre du pays a donc été reportée le temps que des investigations supplémentaires soient menées. Au Sénégal, c'est un rebondissement totalement inattendu. La famille du défunt n'est pas à l'origine de cette demande d'autopsie. Le procureur s'est en réalité auto-saisi dans cette affaire. Il en a la possibilité. Dans un premier communiqué publié samedi, Ibrahim Ndoye avait en effet fait état, je cite, de renseignements reçus sur les circonstances du décès pour justifier cette demande d'autopsie. Voilà à peu près ce qu'on sait pour le moment. À l'instant où je vous parle, le procureur doit rencontrer les avocats de la famille du défunt pour les informer de la suite de l'affaire. La famille de Moustapha Ba, qui était ministre des Finances et du Budget dans le dernier gouvernement avant la présidentielle de mars dernier, reste convaincue de la mort naturelle de l'homme politique à Paris le 4 novembre dernier. C'est en tout cas ce que nous a dit l'un des avocats de la famille, joint par RFI, avocat qui s'étonne de la démarche du procureur, et notamment car en France, le certificat de décès n'avait rien relevé d'anormal.
Léa Lisa Vesterov en direct de Dakar. Au Burkina Faso, l'émoi après la diffusion en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux d'une vidéo particulièrement sordide. On y voit une dizaine de personnes se présentant comme des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, découpant un cadavre à la machette. Hier, l'état-major burkinabé a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'authenticité et l'origine de la vidéo, afin que les personnes concernées répondent de leurs actes si les faits sont avérés, Nadia Ben Mafoud.
La tête et les membres supérieurs sont sectionnés et brandis comme un trophée. Le ventre est ouvert. Nous les avons battus, crie l'une des personnes en montrant du pied la tête coupée. Tout va finir cette année, que Dieu bénisse les VDP, lance un autre dans une ambiance de joie. Tous les intervenants sur la vidéo s'expriment en Dioula, l'une des langues officielles du pays, mais rien ne permet d'identifier le lieu, la date ou les auteurs de ces mutilations. Des activistes réfugiés en dehors du Burkina Faso dénoncent ces actes sur les réseaux sociaux. La vidéo est également partagée sur des groupes WhatsApp privés, mais les Burkinabés évitent depuis plusieurs mois de commenter tout fait impliquant des soldats ou des VDP de peur d'être accusés de démoralisation ou d'entrave à la lutte contre le terrorisme. Mais la vague d'émotion suscitée par cette vidéo a poussé l'état-major à réagir dimanche soir. Cet acte inqualifiable est contraire aux valeurs militaires et morales inculquées au personnel des forces armées nationales ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, fait savoir l'état-major dans un communiqué. Cela transgresse les règles d'engagement des unités sur le terrain, ajoute-t-il. Régulièrement accusé d'exécutions extrajudiciaires, l'armée burkinabée a toujours démenti, pointant parfois des groupes armés utilisant du matériel militaire.
Si le monde ne fait rien, tous les habitants de l'état d'Al Jazeera vont mourir. Cri d'alerte de Rania Suleiman, docteur en pharmacie et membre de l'organisation Sudan's Doctor for Human Rights. Elle vit à Londres et elle reçoit quotidiennement des informations de la situation dans cet état du centre-est du Soudan. Une zone où les paramilitaires des FSR et l'armée s'accusent respectivement de tueries contre les civils depuis 11 jours. La localité d'Al Hilaliyah est aux mains des FSR qui ont forcé les familles famille à se regrouper dans 3 mosquées. Plusieurs centaines de personnes sont bloquées, elles n'ont pas le droit de partir, sauf si elles peuvent payer. Les conditions sanitaires sont tout aussi déplorables. En une semaine, une épidémie a déjà fait plus de 350 morts, selon Rania Souleyman.
Il est possible que ce soit le choléra, mais il s'agit probablement d'une sorte d'empoisonnement. Ils n'ont qu'une seule source de nourriture et ils pensent qu'elle est contaminée ou que l'eau peut être contaminée car ils utilisent l'eau d'un vieux puits. Il n'y a pas de personnel médical. Donc nous avons eu ces informations grâce aux gens qui ont pu payer et quitter Al-Hilalia pour se rendre dans une autre zone proche appelée Umdoban, où il y a un centre médical et ils nous ont expliqué ce qui leur était arrivé. C'est une catastrophe, une immense catastrophe. Si le monde ne fait rien, tous les habitants d'Al Jazeera vont mourir, et pas seulement dans la ville d'Al-Hilalia, car les FSR se déplacent rapidement d'une ville à l'autre. Cette guerre doit cesser maintenant. Le monde doit s'impliquer pour créer des lieux sûrs, surveillés par l'ONU ou toute autre force internationale pour sauver ceux qui sont encore en vie là-bas.
Des propos recueillis par Amélie Tullet. Il est 13h41 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, un nouveau cadre pour l'opposition au Bénin. Il a été lancé hier à l'initiative du parti Les Démocrates de l'ancien président Thomas Boniaï. Et puis en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle se défend après les protestations de l'opposition et d'une partie de la société civile contre les projets de révision de la Constitution. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce lundi au Cameroun, l'ouverture ce matin de la 11e audience de l'affaire Martinez-Zogo. Du nom de l'animateur vedette de la radio Amplitude FM assassiné en janvier 2023 à Yaoundé. Ce matin, le tribunal militaire a rejeté toutes les exceptions relevées par la défense. Les avocats dénonçaient des vices de procédure et sollicitaient la requalification des charges. Ces exceptions ont été déclarées non fondées par le commissaire du gouvernement au cours de la dernière audience. L'affaire a été renvoyée au 2 décembre prochain. Le Bénin a donc un nouveau cadre de concertation pour l'opposition. Il regroupe son initiateur, le parti Les Démocrates de l'ancien président Boniaï, le MPL, Mouvement pour la Libération, le GSR, Grande Solidarité Républicaine, la Nouvelle Force Nationale et le mouvement Nous le Ferons. Objectif affiché, réparer une démocratie abîmée et s'assurer d'un scrutin libre et transparent en 2026, Jean-Luc Aplogan.
Le regroupement ressemble bien à un front de l'opposition contre Patrice Talon. On a entendu des expressions comme « Union sacrée », en ligne de mire, les élections générales de 2026. À la tribune, les orateurs dénoncent la gouvernance démocratique de Patrice Talon. C'est l'arbitraire, la dérive, les excès et le règne d'un chef de parti unique. Fin de citation. Il faut remettre les pendules à l'heure. Le cadre de concertation a déjà préparé une feuille de route. Le député Joël Godonou énumère les premières actions.
Il y aura à l'adresse du président de la République une proposition par rapport à l'audit du fichier électoral pour avoir des élections apaisées. Le second combat, le chantier du code électoral, c'est ça qui divise le pays.
Eugène Azatassou, qui dirige ce nouveau front, ajoute deux autres revendications majeures.
La sortie des détenus politiques, le retour des exilés.
Les FCBE étaient absents. Éric Ngouleté, vice-président des démocrates, espère que la famille va s'agrandir. Ce cadre de concertation aura-t-il une longue durée de vie? Réponse de Daniel Eda, président du mouvement, Nous le ferons.
Contrairement à tout ce qui a été vécu par le passé, ce cadre est né pour tenir jusqu'aux élections de 2026.
Un bureau de 6 membres est en place. Les démocrates occupent la présidence et le secrétariat exécutif. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
En République démocratique du Congo, la polémique sur la révision de la Constitution voulue par Félix Tshisekedi se poursuit. Opposants et membres de la société civile accusent le président de vouloir briguer un troisième mandat et ils appellent à la mobilisation. Ce matin, la majorité présidentielle leur répond. Thierry Monsenempo est le porte-parole de l'Union sacrée de la Nation.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a d'ailleurs souligné avec insistance. Seul le peuple est souverain et c'est à lui que revient la décision finale. Cette démarche de révision n'est en rien un déni de démocratie. Bien au contraire, c'est une manière d'émanciper notre constitution pour mieux répondre aux défis actuels du pays. Qui sont ces individus pour s'opposer à un processus aussi démocratique? Ne s'agit-il pas, au fond, d'un groupe de pseudo-intellectuels qui se drapent du manteau de la démocratie tout en refusant au peuple le droit de s'exprimer librement? Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que certains parmi eux, par le passé, ont eux-mêmes plaidé pour une révision de cette même constitution. Leur revirement actuel démontre que leur position est loin d'être objective. Au contraire, elle est empreinte d'opportunisme, ce qui fausse totalement le débat. Au final, il est clair que leur position n'est pas motivée par une volonté de protéger les intérêts du peuple, mais par des calculs politiques égoïstes. Laissons le peuple décider de l'avenir de notre constitution, car c'est cela la véritable démocratie.
Des propos recueillis par Pascal Moulégois. Le sport n'est pas épargné par le harcèlement sexuel et les violences, mais la parole commence à se libérer. En Côte d'Ivoire, le dernier scandale en date touche la Fédération nationale de taekwondo, alors que la fédération est en crise depuis plusieurs semaines. Une jeune athlète s'est confiée à notre correspondant à Abidjan, Youen Gourlet, sur ce qu'elle a vécu.
Mariama Cissé a failli tout arrêter. Talentueuse taekwondoïste, médaillée de bronze au championnat d'Afrique 2022, elle est mise à l'écart de la sélection ivoirienne après avoir refusé les avances de l'entraîneur de l'équipe nationale.
Avec les refus, ça n'a pas joué à ma faveur. J'ai commencé à être mise à l'écart. Ça a coupé mon élan parce que je comptais plus à l'équipe nationale. J'ai été remplacée même sans un test match.
Remplacée par une athlète junior pour les championnats d'Afrique organisés en novembre dernier à Abidjan, elle décide de porter plainte pour harcèlement sexuel et abus de pouvoir le mois d'après. La Fédération ivoirienne de taekwondo réagit, l'entraîneur en question est limogé, ainsi que le directeur technique national. Une commission spéciale d'investigation est alors menée, une confrontation a même lieu entre l'entraîneur et l'athlète. Puis la jeune femme dit ne plus avoir eu de nouvelles.
Je veux pas aussi que d'autres personnes puissent subir la même chose. Le mettre juste à l'écart, je crois que ça veut rien dire en fait. Ça va continuer s'il n'y a pas de sanctions.
En septembre, une nouvelle plainte pour harcèlement sexuel a été déposée par le père d'une athlète de 17 ans contre le nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Depuis, la fédération est en crise et reprend doucement ses activités. Selon l'instance, l'entraîneur limogé en décembre aurait été mis en examen et l'affaire aurait été renvoyée auprès du tribunal correctionnel d'Abidjan. Un procès doit donc avoir lieu. Mariama Cissé, elle, s'est reconstruite au sein de l'académie Evolution à Abidjan. Elle espère maintenant devenir championne d'Afrique. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Il est midi 47 à Abidjan. Anne Kantner, les grands titres de ce lundi 11 novembre.
L'ouverture de la COP29, on en parlait avec de grands absents, notamment le président américain, le président français. Il y aura aussi d'autres absents, le premier ministre indien, le président chinois. La COP a commencé par un appel à la communauté internationale, puisque cette COP s'annonce comme celle du financement pour aider les pays en développement à le faire sans le pétrole et sans le charbon. Le Premier ministre libanais appelle à mettre fin à toute ingérence dans ses affaires internes. Il demande à la communauté internationale de soutenir l'État, pas les factions, et affirme qu'une crise sans précédent menace l'existence de son pays. De son côté, le prince héritier saoudien appelle Israël à respecter la souveraineté de l'Iran et à s'abstenir d'attaquer son territoire. Dans l'actualité également, la rencontre entre Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer. Tous les deux ont commémoré l'armistice de 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. Les deux dirigeants ont célébré l'anniversaire de ce que l'on appelle l'entente cordiale entre les deux pays afin d'aplanir des différends entre Londres et Paris. Et puis la guerre en Ukraine avec de nouveaux bombardements russes dans tout le pays qui ont visé notamment des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles. Eskom, la compagnie publique d'électricité sud-africaine, menace de couper le courant à Johannesburg si la municipalité ne règle pas ses dettes. Claude Bessac, directeur de la société d'analyse géopolitique et risque pays Eunomix, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Claude Bessac.
Bonjour.
Pour bien comprendre la portée de cette menace d'Eskom, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? La municipalité achète à Eskom l'électricité dont les habitants ont besoin.
C'est exact. Pas comme en France où le consommateur achète directement d'EDF. en Afrique du Sud, les municipalités sont clientes des SCOM et elles ensuite vendent cette électricité aux consommateurs, à part les très grosses entreprises qui elles achètent directement à ESCOM. Et c'est une des sources très très importantes, principales d'ailleurs, des revenus de la municipalité.
Parce que la municipalité revend aux particuliers le courant plus cher que ce qu'elle l'achète.
Tout à fait, et de manière significative. Et ceci pour deux raisons. D'une part, parce que ce sont les municipalités qui sont censées procéder à l'électrification des quartiers qui, historiquement, ont été victimes de l'apartheid et qui n'avaient donc pas l'accès à l'électricité, ou de manière suffisante. Et d'autre part, parce que les municipalités se servent des revenus du profit, quelque part, qui serait censé sortir d'être dérivé de cette vente d'électricité pour leur fonctionnement.
Pourquoi la municipalité de Johannesburg ne paye-t-elle pas ses dettes auprès d'ESCOM ?
Alors, c'est une raison qui, d'un point de vue technique, est complexe, mais d'un point de vue du principe, est assez simple. La municipalité de Johannesburg est aux mains de l'ANC de manière plus ou moins continue maintenant depuis la libération, et la qualité de la gestion de Johannesburg s'est absolument effondrée, notamment si on compare celle de Cape Town, qui est dirigée par le parti d'opposition, qui fait maintenant partie du gouvernement du national, le DA, Democratic Alliance. Et on a eu affaire, on fait face à un véritable effondrement de la qualité de la gouvernance, de la gestion de la ville. En termes du secteur de l'électricité, ça se manifeste d'une part par la véritable explosion des connexions illégales, donc du vol de l'électricité, qui est un phénomène aujourd'hui quasi universel, notamment dans les quartiers défavorisés. Et d'autre part, par le fait que le système de facturation de la municipalité vis-à-vis de ses clients, à savoir les résidents, ce système s'est effondré il y a à peu près 10 ans par incompétence et aussi, il semblerait, par corruption. Et donc, il y a un trou noir immense qui n'est pas seulement un trou noir financier, mais aussi un trou noir d'informations comptables sur ce qui serait vraiment dû ou pas dû à la municipalité, par la municipalité à ESCOM, et aussi des consommateurs à la municipalité.
En dehors du cas de Johannesburg, est-ce qu'on a une idée du montant de ce que représentent les impayés des autres institutions et entreprises publiques auprès d'ESCOM ?
Écoutez, les chiffres varient parce que le système lui-même n'est pas transparent, mais on parlerait juste pour les municipalités, en dehors de Johannesburg, on parlerait d'à peu près 100 milliards de rand, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros à peu près. Si vous y rajoutez la municipalité de Johannesburg, où le montant est disputé, on parle d'environ 2 milliards d'euros.
Donc c'est un montant énorme. Quelles sont les conséquences de ce manque à gagner pour ESCOM ?
Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ESCOM est d'un point de vue comptable, une société qui devrait être reconnue comme étant en faillite, puisque ses avoirs sont inférieurs à sa dette et qu'elle dépend entièrement des aides de l'État, directement à travers les subventions et indirectement à travers les garanties de l'État sur sa dette, pour rester, ce qu'on dirait en anglais, excusez-moi, je ne me souviens pas de l'expression française, un « going concern », donc une société qui n'a pas fait faillite. Donc des dettes de l'ordre de 2 milliards d'euros se rajoutent à cet état et nécessitent, et on le voit de manière annuelle, continuation de la subvention directe de l'État, du budget de l'État, dans une situation où il y a eu véritablement, au cours des dernières années, une explosion de la dette publique. Ça contribue d'autant plus à ce que ESCOM, pour pouvoir compenser ce manque à gagner, lorsque et quand il n'est pas compensé par l'État lui-même directement, une augmentation des tarifs d'électricité. Alors, il faut comprendre que depuis maintenant 2009-2010, l'électricité, les tarifs d'électricité ont augmenté d'environ 700 à 800% pour le consommateur de base.
Donc c'est énorme. Et par ailleurs, s'il n'y a pas assez d'argent, ESCOM ne peut pas investir dans de nouvelles centrales électriques ?
C'est exact. Alors, il faut savoir que là aussi, il y a des problèmes significatifs, qu'il y a un retard de 10 à 15 ans sur deux vastes centrales électriques qui étaient censées résorber le fait qu'une partie importante du parc énergétique d'ESCOM est très, très âgée. Hein, la flotte de centrales thermiques au charbon, notamment, est en fin de vie. Et donc, c'est une véritable quadrature du cercle, cercle vicieux, trou noir financier, corruption à ESCOM, écroulement de la performance opérationnelle des centrales thermiques, non-paiement par les municipalités. Et dans cette situation, un nouveau gouvernement qui a donné au PDG d'ESCOM la mission de sauver la société à tout prix. Et donc, des demandes incroyablement déraisonnables auprès du régulateur d'électricité, soi-disant indépendant, mais qui n'est pas vraiment, d'augmentation des tarifs d'électricité l'année prochaine, par exemple, de 35%, vous voyez.
Merci Claude Bessac. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications. Rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et l'on se quitte en musique avec le nouvel album de Pedro Kouyaté. Cela s'appelle Following. C'est un hommage aux ancêtres, mais aussi à la force de vie qu'engendre la musique. Pour l'occasion, le jazzman, bluesman, guitariste et choraïste franco-malien s'est entouré d'une flopée d'artistes comme Oxmo Puccino, Arthur Ashe ou encore Eric Truffaz, Olivier Roger.
De sa voix fêlée s'échappent les émotions et de sa guitare une musique tour à tour mélancolique et grave. Avec le temps et au fil des albums, Pedro Kouyaté assagit ses rythmes et gagne en profondeur. Sur Following, il rend hommage aux ancêtres disparus, ceux qui ne doivent pas mourir une deuxième fois par l'oubli. L'occasion pour le guitariste et choraïste malien de se souvenir aussi de deux hommes qui ont marqué son art, le choraïste Toumani Diabaté et le bluesman Boubacar Traoré.
Dans la vie, il faut avoir un cadre. Boubacar, il a été le père que j'ai jamais eu. Toumani a été le grand frère. On ne peut pas peser 15 kilos quand on fait la guerre. Il te faut des référents. L'amour que Toumani m'a donné, l'amour que Boubacar m'a donné, la confiance que Boubacar m'a donné, je savais à l'instant T ce que ça valait.
Hommage aux anciens, hommage aussi aux amis. Pedro Kouyaté en a invité une foule sur cet album, produit par le jeune label Caisson Records, le chanteur Arthur Ashe, le batteur Manu Katché, le trompettiste Eric Truffaz et son compère, le franco-malien Oxmo Puccino, auteur de ce sublime Hiver.
Ne laisse rien tomber d'autre que la neige. Rien ni personne. Laisse tomber la neige pour un doux feu d'artifice. C'est le prêche cosmique d'un descendant d'animiste. Non, ce n'est pas une vie mais une aventure ambiguë. On en fait des histoires pendant que la vie continue. C'est ainsi à chaque sommet de l'année. Puisque nous le savons, empêchons-nous de se blâmer. S'ouvrir contre l'enfermement. Prendre du plaisir dans le doute au cas où l'enfer.
Et c'est avec Following, nouvel album de Pedro Kouyaté, que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus d'une minute sur RFI pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Les frères Timal. Luigi.
Hey, Tébi Tébi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment s'habille ton petit ami. Avec quand
RFI Musique.
On sera toujours heureux. Donc on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
Demain,
comprendre le rôle du jeûne intermittent pour le poids et le vieillissement.
Mercredi,
prévention et prise en charge de la pneumonie pour protéger les enfants.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Tiken Diafakoli. Ce mercredi 13, je serai avec vous toute la journée sur RFI.
Le 13 novembre, Tiken Diafakoli est l'invité spécial de RFI.
Et le soir, je vous invite, vous les auditeurs, à mon concert.
À 19h41, ne manquez pas le concert du reggaeman panafricain en direct de la salle Playel à Paris.
Rastafari, African Revolution.